Merci Anne et bon week-end.
Box.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
À mon Richardo.
Un événement du passé mis en récit, mêlé à des archives et des musiques choisies, chaque samedi de 19h à 20h et à toute heure sur franceculture.fr, voici Jukebox. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, Jukebox vous emmène vous perdre dans les eaux troublées d'une lagune. À l'occasion de l'exposition éblouissante Venise au Grand Palais, nous irons en effet explorer le quotidien de la cité des doges au XVIIIe siècle. Après un millénaire d'existence, la République de Venise vit alors ses dernières heures avant sa chute sous le joug napoléonien. La Sérénissime, comme on l'appelle, selon la belle formule de l'historien Patrick Barbier, gère joyeusement sa lente agonie. Et quelle joie, quel faste que ceux de cette ville immortalisée par les vues urbaines et raffinées de Canaletto, mise en scène par Carlo Goldoni et en musique par Vivaldi, Johann Hasse ou Nicolas Porpora. Dans cette cité de la fête, du carnaval, du jeu et de l'insouciance, on croisera des pyramides humaines, des anneaux d'or jetés en pleine mer, des croupiers désargentés et des voix célestes. Ce soir, Venise 18e, un crépuscule en musique. C'est seulement lorsque le type s'est mis à siffler qu'il s'est réveillé. Combien de temps s'était-il endormi? En rouvrant les yeux, il constate que la plupart des bougies qui éclairaient la chambre se sont éteintes. À ses côtés, il perçoit la respiration de la femme qui dort à ses côtés, régulière, alourdie du vin sicilien dont ils ont vidé la carafe sur la table de nuit et par le feu assouvi de leur étreinte. Pas le temps de s'apesantir, il lui faut partir et vite. Dans l'obscurité, il rassemble ses vêtements, se rhabille à tâtons, réveille la belle enivrée à qui il murmure de le guider presto presto jusqu'à l'escalier secondaire de la maison. Un conduit humide qu'il descend précautionneusement, le cœur qui s'emballe et ses pieds nus sur les marches froides, jusqu'à la porte dérobée donnant sur le canal. Le frottement du bois sur la pierre lui paraît produire un bruit d'enfer. Dehors, il retient son souffle et scrute la nuit d'encre. C'est alors qu'il voit s'approcher une ombre sur l'eau et bientôt il reconnaît son bienfaiteur, ce gondolier qui quelques heures plus tôt l'avait mené ici et à qui il avait demandé de rester sur place et de l'alerter en cas du retour inopiné du mari de la belle. Ce que l'autre a fait loyalement en sifflant comme convenu sous la fenêtre l'air de la barcarolle convenue et désormais le fait s'éloigner rapidement sur ce petit canal secondaire de Venise. À la lumière suspendue au bout d'une perche par le gondolier, et tandis qu'il termine de se rhabiller, l'homme détaille avec gratitude le batelier qui manie sa rame sans aile particulier. Ailleurs qu'à Venise, sa soirée ne se serait pas finie aussi bien, mais ici, les gondoliers, en plus de leur humour et de leur patience, sont les meilleurs alliés des amants. Apprenant leur métier de père en fils, ces hommes sont des tombes, mettant un point d'honneur à respecter un serment tacite, celui de ne jamais ébruiter les secrets échangés à bord de leur embarcation. Rien, ni confidence amoureuse, ni intrigue politique, ne fuite jamais des gondoles de Venise. Cet absolu devoir de réserve, bien des Vénitiens lui doivent d'avoir conservé la vie, à commencer par un autre libertin, Giacomo Casanova, qui, quelques années plus tôt, s'évadant des Piombi, la redoutable prison du palais ducal, n'avait jamais, depuis, été trahi par le gondolier qui l'avait escorté dans sa fuite.
Casanova porte en lui cette ville comme nul autre, je crois, ne portera sa ville natale. C'est vraiment le fils de Venise. Casanova est l'homme du théâtre, c'est l'homme du faux-semblant, c'est l'homme du décor, cet homme qui adore les parures, les costumes, les bijoux, les frivolités, cet homme qui est capable, pour simplement le plaisir du déguisement, d'habiller une jeune novice, n'est-ce pas, qui l'aura séduite de l'habiller en courtisane, et de prendre inversement une courtisane et de la vêtir en novice, parce que c'est aussi une perversion de l'esprit, mais c'est aussi un plaisir sensuel. Et puis il y a le goût de la fête, il y a le goût du plaisir et le goût de la musique. Il y a également le goût du jeu. Donc je dirais qu'il est vraiment le Vénitien superlatif.
Archive, l'historien Maurice Levert, extrait de l'émission Histoire possible et impossible, jadis produite par Robert Arnaud sur France Inter. Checa beta ecate, une des nombreuses et célèbres chansons anonymes des gondoliers vénitiens du XVIIIe siècle. Bienvenue donc dans la Sérénissime, la République de Venise. Quand on dit république, soyons clairs, on ne parle pas d'une véritable démocratie, mais plutôt d'une oligarchie, une entente de quelques familles puissantes, les fameuses familles patriciennes. Depuis des siècles, elles ont bâti leur puissance sur un gouvernement stable, incarné par la figure du doge, et surtout sur le très lucratif commerce maritime autour de la Méditerranée, notamment celui des épices. Mais les temps commencent à être difficiles ce XVIIIe siècle. En 1630, la ville a été frappée par un terrible épisode de peste. Le commerce mondial tend, lui, à se recentrer plus à l'ouest, vers l'Atlantique. Bref, Venise, après des siècles de domination, n'est plus qu'une république moribonde. Fière, elle n'apprivoise pas encore l'idée de ne plus être au centre du monde. Ses familles dirigeantes redoublent pourtant de concurrence et d'une austérité affichée, s'habillant de noir. Les femmes, par exemple, ont l'interdiction de porter des bijoux passé la première année de leur mariage. Ces nobles vivent par ailleurs dans la crainte permanente d'être dénoncés dans un régime qui, contrepartie de sa stabilité, est l'un des plus policiers du monde, encourageant la délation de tout un chacun, notamment pour ses relations avec les étrangers de passage qui pourraient menacer la stabilité de l'édifice. Et pourtant, tout dans cette ville raconte encore l'insouciance, la richesse, le faste, l'architecture harmonieuse et précise des vues de la ville rendues célèbres dans le monde entier par les grands Canaletto et Francesco Guardi, le grandiose des fresques rococo de Tiepolo ornant ses églises et ses palais. Le déclin de Venise n'est encore qu'un secret, à l'image de ceux conservés chaque jour par les gondoliers de la ville. Et d'ailleurs, ce début de siècle, rien ne semble affleurer des inquiétudes. Pour preuve, à l'époque, la musique est partout. Carlo Goldoni, le dramaturge vénitien, écrit « On chante dans les places, dans les rues et sur les canaux. Les marchands chantent en débitant leurs marchandises. Les ouvriers chantent en quittant leurs travaux. Les gondoliers chantent en attendant leur maître. Le fond du caractère de la nation est la gaieté. Et le fond du langage vénitien, la plaisanterie. » C'est tout la Regia al Volo, extrait de l'opéra Ezio, créé à Venise en 1728 par le compositeur Nicola Porpora et interprété ici par le contre-ténor Max-Emmanuel Sensic. Cette boulimie de musique touche donc toute la population, du bas en haut de l'échelle, à commencer donc par les gondoliers dans une ville jadis gagnée sur la lagune et où, les trottoirs étant rares, on circule essentiellement en barque, ce qui, convenons-en, prend un peu de temps, mais aussi tombe bien vu que les gondoliers, en plus d'être, on l'a vu, des tombes, sont aussi des chanteurs nés. Mais la musique, on la trouve aussi ailleurs, dans les palais des grandes familles, dans les églises, les théâtres, mais aussi dans des lieux insoupçonnés, ainsi dans les hospices de la ville, ces institutions qu'on nomme alors les hospedali. Venise, société profondément catholique et en cela rompue à la charité, assume alors pleinement depuis longtemps ses charges envers ses marges, ses malades, lépreux, syphilitiques, victimes de la variole, envers ses mendiants ou bien encore ses orphelins, conséquence des épidémies et des guerres passées, mais aussi, disons-le tout net, des nombreuses liaisons d'un soir et de leurs fruits non reconnus, des orphelins qu'on peut alors discrètement déposer comme à la Pietà dans une niche aménagée dans le mur extérieur du bâtiment. Gouvernée par des congrégations privées et laïques, financées par des citoyens vénitiens et de riches marchands, ces hospices, on en compte quatre à Venise, ne se contentent pas de nourrir et de soigner ces déshérités, mais aussi de préparer leur avenir. On forme ainsi les garçons en les plaçant en apprentissage dans des corporations pour qu'ils y apprennent un métier, notamment à l'arsenal ou dans la navigation urbaine. Les filles, elles, cloîtrées presque comme des religieuses, font l'objet de soins particuliers afin de les extraire à la misère et à la prostitution. Tandis que certaines, les figli del comune, les figli del commun, sont dédiées aux tâches ménagères et formées aux travaux d'aiguille, les autres, les figliers del coro, passent, elles, toute leur jeunesse à se voir inculquer l'art du chant et de la musique, plusieurs heures par jour, entre 8 et 20 ans. On ne parle pas ici de quelques jeunes femmes. À la Pietà, par exemple, ce sont quelques 1000 pensionnaires qui sont prises en charge en 1738. Ces figli del coro chantent et exercent leur instrument lors de concerts organisés dans les églises voisines, opérant depuis des tribunes surélevées, hors du regard des croyants et suscitant dès lors, on s'en doute, bien des fantasmes. Elles y développent des capacités remarquables et rapidement, ces hospices voient leur réputation grandir. Leurs pensionnaires y acquérant un niveau instrumental inégalé, notamment sous l'influence de certains professeurs, au premier rang desquels un jeune homme, tout juste ordonné prêtre et par ailleurs musicien hors pair, Antonio Vivaldi. Embauché en 1703 comme maître de violon par l'Ospedale della Pietà, c'est à l'attention de ces jeunes musiciennes qu'il composera ensuite pendant presque 3 décennies quelques 500 concertos, de nombreux motets, mais aussi des oratorios à l'image de ce Giuditta Triumphans donné en public en novembre 1716. interprété ici sous la conduite d'Alessandro De Marchi, Giuditta Triomphante, composée en 1716 par Vivaldi, d'après un livret fondé sur le récit biblique du livre de Judith, narrant le siège de la ville de Béthulie en Israël par les Assyriens de Nabuchodonosor. Dans la Bible, Judith, une jeune veuve juive, se sacrifie pour défendre sa ville assiégée et va pour cela trouver dans la nuit Holoferne, le général de l'armée adverse, pour l'enivrer, le séduire et lui trancher la tête. Cet épisode biblique, Vivaldi, dans cette œuvre de commande, le rapproche de la guerre que vient alors de conduire la République vénitienne contre son ennemi éternel, l'Empire ottoman, auprès de qui, en août 1714, elle a notamment repris la citadelle de Corfou. Vivaldi fait donc de cet oratorio un hymne à la gloire de Venise. Venise se voit alors comme toute puissante. Séparée il y a longtemps de l'Église, elle jouit, débarrassée du Vatican et de l'Inquisition, d'une totale liberté d'expression et d'impression. C'est dans cette ville d'immigration qui longtemps a vu se croiser Byzantins, Arabes, Juifs, Slaves, Arméniens ou Turcs que furent jadis imprimés pour la première fois en italien la Bible, le Coran ou le Talmud. C'est là qu'on imprimait les premiers textes érotiques, les traités de cuisine ou de médecine, mais aussi les madrigaux de la Renaissance. Pourtant, ce début de XVIIIe siècle, Venise commence à marquer le pas et les deux principaux éditeurs de l'époque accusent un retard technique par rapport à leurs concurrents du nord de l'Europe. C'est d'ailleurs vers Amsterdam que Vivaldi se tournera pour publier en 1725 ses plus fameux concerti, ceux qui assiéront sa réputation mondiale, les quatre saisons, dont voici un extrait de l'hiver. France Culture, Jukebox, aujourd'hui, Venise, jusqu'au bout de la fête. Extrait des Quatre Saisons, l'œuvre monumentale de Vivaldi, ce premier mouvement de l'hiver, interprété par l'ensemble Europa Galante et Fabio Biondi en 1991. Vivaldi, dont, malgré la renommée, on sait si peu de l'existence. Né à Venise en mars 1678, il est d'une santé si fragile qu'il est baptisé le jour même. Son père, célèbre violoniste exerçant dans l'orchestre de la Basilique Saint-Marc, lui enseigne très tôt le violon et le clavecin. Mais c'est un autre destin qui attend ce jeune homme à la chevelure rousse, la prêtrise, qui constitue alors un débouché classique dans les familles nombreuses de Venise où il n'existe pas de droit d'aînesse et qui offre dès lors un emploi stable, prestigieux, tout en évitant de disperser le patrimoine familial. Pourtant, chez Vivaldi, cette vocation religieuse très vite a du plomb dans l'aile. Ordonné en 1703, Vivaldi ne dira la messe qu'un an tout au plus avant d'y renoncer, peut-être en raison de l'asthme chronique dont il est sujet. Il se tournera donc très tôt vers l'enseignement de la musique comme maître de violon et compositeur au sein de l'Hospice della Pietà et, en parallèle, à partir de 1913, de devenir l'impresario pour le compte d'un théâtre de Venise, le théâtre Sant'Angelo, une petite salle à la décoration raffinée où il créera plusieurs dizaines d'opéras à la gloire de Venise. La vague de l'opéra sur lequel nous allons bientôt nous pencher et qui, plus que n'importe quel autre genre, incarne la soif de divertissement de la cité des doges. Venise est alors la capitale mondiale de la liesse et du rire. Une fois par semaine, en moyenne, la ville s'anime d'une grande célébration, souvent somptueuse, dont le motif civil ou religieux sert avant tout à célébrer la cité, son histoire et son incroyable longévité. Messes, processions à travers la ville, illuminations et feux d'artifice, sorties en mer rassemblant des milliers de gondoles, banquets gigantesques ou périlleuses pyramides humaines baptisées Force d'Hercule. Des fêtes dont les plus fastueuses célèbrent l'avènement d'un nouveau doge, le dirigeant de la ville, élu à l'issue d'un processus d'une incroyable complexité, initié par le tirage au sort via la main innocente d'un garçon de 8 à 10 ans, de 40 membres du conseil, lesquels en désigneront ensuite d'autres à l'issue de 4 tours mêlant élections et tirage au sort. L'accession au trône du nouveau souverain qui donne lieu à 4 jours de festivités marqués par une débauche de richesses, manteaux d'hermine ou d'or, feux d'artifice, argent et nourriture jetés au peuple et bals donnés au palais. Citons aussi une autre fête annuelle, la Censa, le mariage avec la mer qui symbolise la domination éternelle de Venise sur les eaux et culmine le jour de l'ascension lorsque le doge, embarqué sur une immense et somptueuse embarcation conduite par 160 rameurs, se rend au large du Lido où il lance dans les flots un anneau d'or. Mais la fête à Venise est surtout incarnée par la saison du carnaval qui, ce 18e siècle, s'étale sur presque 6 mois de l'année, entre octobre et l'ascension, avec quelques interruptions pendant Noël ou le carême. Venise voit sa population s'accroître de 30 000 visiteurs et touristes, le carnaval pendant lequel tout le monde se déguise donc et se masque. Hommes et femmes revêtent alors la botta, constituée d'une immense cape noire, d'un tricorne et d'un masque, le volto. Garantissant un parfait anonymat, on raconte que les prêtres et les nonnes le portent pour dissimuler leurs fugues amoureuses. Le port du masque, qui n'est pas juste une liberté offerte, mais bel et bien une obligation établie pour provoquer le plus grand brassage social, partout, dans les rues, les théâtres, les églises, jusque dans le palais du doge. Dans cette confusion généralisée, chacun peut tout faire, tout oser, s'enivrer, s'abandonner au libertinage, profiter des charmes exquis des courtisanes. On peut même, à condition de ne pas se faire trahir par sa voix, changer de sexe. L'un des loisirs les plus prisés en période de carnaval consiste également à aller se perdre dans les maisons de jeu. La plus célèbre de ces maisons s'appelle le Ridotto. Il a été ouvert en 1638 dans le Palazzo d'Andalo, dans le quartier de San Moïse, et est géré directement par l'État. Comme toutes les autres maisons de jeu, le Ridotto n'ouvre que pendant le carnaval. D'octobre à Mardi Gras, on y entre forcément masqué. À l'intérieur, 11 pièces accueillant des tables où l'on vient jouer aux cartes, à la bassette, au pharaon ou à la meneghella, au biribi, une sorte de roulette, ou bien au backgammon, sous l'œil des barnebotti, des nobles désargentés, les seuls à ne pas être masqués, vêtus de noir et qui servent de croupiers. Un silence absolu et de rigueur. Pour le reste, aux tables, derrière leurs masques, se mélangent et s'affrontent, vénitiens et étrangers, aristocrates et gens du peuple, princesses et ambassadeurs, nobles dames, courtisanes. On y gagne ou on y perd quelques ducats ou des fortunes entières, tant et si bien qu'un jour, l'État mettra le holà, mais pour l'heure, au rideau tôt, comme partout dans le Venise du carnaval, on s'amuse dans la plus parfaite des insouciances. Saison du carnaval qui, musicalement parlant, donne lieu à toutes les compétitions et les surenchères parfois hystériques. Ainsi, l'hiver 1728-1729, lorsque deux des principaux théâtres de Venise se disputent les faveurs du public. D'un côté, le Teatro San Giovanni Crisostomo, qui a investi, via ses propriétaires, une petite fortune pour embaucher le chanteur Castra Farinelli dans deux opéras. Face à lui, le Teatro Cassiano, qui affiche deux interprètes stars, la célèbre Faustina Bordoni et le Castra Senezio, qui avait longtemps travaillé avec Handel. Le 4 décembre 1728, Farinelli débarque à Venise en véritable rockstar, suivi par 300 personnes lors d'une promenade sur la place Saint-Marc. Trois semaines plus tard, Farinelli triomphe lors de la première de l'opéra Catone in Utica, signé Leonardo Leo. Venise chavire. La correspondance d'un noble vénitien, abbé et par ailleurs amateur d'art, souligne qu'on ne parle ici que des opéras et on est si entêté de Farinelli que si les Turcs étaient dans le Golfe, on les laisserait débarquer tranquillement pour ne pas perdre deux ariettes. En février 1729, le Grisostomo enfonce le clou avec la création par Nicolas Porpora de l'opéra La Semiramide Riconosciuta, donnant lieu à un sommet d'émotion lorsque dans le deuxième acte, Farinelli délivre un aria bouleversant, ce « si pietoso il tuo labbro ». Tes lèvres s'expriment avec tant de pitié que cette âme ne craint pas qu'elle feigne. Elle s'abandonne à leur douce flatterie et rêve à son bonheur. « Si Pietoso il tuo labbro, extrait de l'opéra La Semiramide riconosciuta par Nicolas Porpora en 1729, interprété ici par Philippe Jaroussky sous la conduite d'Andrea Marcone. Porpora, compositeur napolitain, et que l'histoire retient pour avoir été l'enseignant de nombreux chanteurs d'alors, et notamment des plus grands castrats du siècle, parmi lesquels Caffarelli ou le grand Farinelli. Principal divertissement de l'époque, l'opéra génère alors sa propre économie, mettant en jeu des sommes considérables négociées par les impresarios au nom des stars qu'ils représentent et par les théâtres pour attirer le public. Tous les coups sont permis dans la concurrence féroce que se disputent les 6 théâtres de la ville. Des théâtres qui, rappelons-le, étaient nés à Venise quelques décennies plus tôt, en 1637, lorsqu'avait ouvert le tout premier théâtre destiné à un public payant. S'y mélangent tous les publics, mais non sans quelques répartitions. Tandis que les aristocrates et les grandes familles possèdent les clés des loges des étages intermédiaires, le parterre, lui, est dédié aux pauvres et aux gondoliers qui se tiennent debout ou sur des chaises pliantes et qui manifestent bruyamment leur approbation ou pas. Le plus célèbre de ces théâtres s'appelle le Teatro di San Giovanni Crisostomo, inauguré en 1678 et décrit alors comme le plus beau, le plus grand et le plus riche des théâtres de la ville. Il accueille des productions somptueuses et c'est là que le 11 février 1730 est créé l'opéra Artaserse, composé par un Allemand de 31 ans, un certain Johann Adolf Hasse. Thank you. Signé de l'allemand Johann Adolf Hasse, l'ouverture d'Artaxercé, opéra créé en 1730 et interprété ici sous la baguette de Christophe Rousset. Artaxercé qui annonce le déclin des opéras de Vivaldi et signe les débuts de Hasse à Venise, lequel connaîtra par la suite une brillante carrière, épousant la même année la célèbre cantatrice Faustina Bordoni. Artaxercé, dont le succès s'explique aussi par la présence parmi les chanteurs du célèbre Farinelli, alors âgé de 25 ans. Lors d'une reprise de cet opéra, 4 ans plus tard à Londres, l'œuvre sera donnée, mêlée, comme c'était parfois l'usage à l'époque, à des airs composés par d'autres, parmi lesquels le frère de Farinelli, un certain Riccardo Broschi, auteur de ce célèbre « Son qual nave cagitata »,« Je suis comme un navire secoué par les récifs au milieu des vagues, confus et effrayé et qui avance en haute mer, mais voyant le rivage bien aimé, je laisse les vagues et les vents perfides et je rentre au port pour me reposer. »
Si mi confondi e spaventata, pazzo il canto in alto mar.
Interprété ici par Cecilia Bartoli et l'ensemble Il Giardino Armonico, Son qual nave cagitata, par le napolitain Riccardo Broschi, et intégré à l'opéra Artaxercé en 1734 à Londres. Ce serait d'ailleurs lors de cette reprise londonienne, à la fin de cette aria, que serait parti d'une loge un cri de femme disant « One God, one Farinelli ». Farinelli, le roi des castrats, ces phénomènes musicaux apparus deux siècles plus tôt auprès du duc de Ferrare et qu'on retrouve depuis alors par milliers au service de tous les princes d'Europe. Formés pour la plupart en Italie, ils chantent musique profane ou sacrée, les meilleurs pouvant, dit-on, rivaliser en puissance, en technique et en hauteur avec une trompette. Castrés pour éviter leur mue et conserver éternellement leur voix d'ange, ces jeunes garçons étaient généralement opérés entre 6 et 8 ans, endormis à l'aide d'opium, voyant sectionner leur cordon spermatique, mais conservant leur verge. À l'époque, bien peu pourtant considéraient la barbarie de la chose et tous privilégiaient plutôt la chance de voir ces enfants, souvent issus de familles pauvres, pouvoir s'extraire de la misère. Parmi ces enfants donc, Carlo Broschi, qu'on appellera bientôt Farinelli, lui, est issu d'une famille cultivée de notables dépouilles, formée, on l'a dit plus tôt, auprès du grand Nicolas Porpora. Il fait sa première apparition publique alors qu'il est encore adolescent, avant de faire ses débuts sur scène à Rome en 1721. Il acquiert rapidement une renommée internationale, acclamée partout en Italie et exigeant pour se produire des sommes toujours plus importantes. En 1737, la reine d'Espagne le fait venir à Madrid, espérant que son chant guérisse la dépression de son mari, Philippe V. Les 9 années suivantes, Farinelli chantera donc pour le souverain tous les soirs, avant de se retirer de scène dans une villa de Bologne. Le phénomène des castrats qui connaît alors ses dernières heures, la castration étant bientôt interdite par le pape Clément XIV, et les castrats auront presque tous disparu au début du XIXe siècle. Le tout dernier, un Italien, Alessandro Moreschi, sera d'ailleurs enregistré en 1902 sur un cylindre de cire dont voici un court extrait. Les années passant, les nuages s'amoncellent dans le ciel de Venise. La cité commence à mettre de l'eau dans son vin, réduisant par exemple en 1736 les droits de douane à l'importation comme à l'exportation, afin de freiner la déroute commerciale. Concernant les mœurs de ses habitants, les autorités décident notamment d'enrayer l'explosion de la prostitution et notamment l'activité des courtiers d'amour qui s'en allaient jusqu'alors proposer à travers la ville les services de femmes du monde, parfois même à leur propre mari. Au printemps 1739, près de 500 de ces entremetteurs sont arrêtés. Puis, en 1755, ce sera le fameux Casanova qui sera emprisonné. Vivaldi, lui, n'assistera pas à cette déroute. Confronté à ses propres difficultés dans la réception de ses opéras, il a quitté Venise en 1740 pour aller s'exiler à Vienne, où il meurt l'année suivante, le 28 juillet 1741, abandonné de tous. Cum dederit dilectus suis somnum, quand il accorde le sommeil à ceux qu'il chérit, extrait du Nisi Dominus, composé par Vivaldi, sans doute au début de cette longue carrière, laquelle s'était donc terminée tristement.
Il faut bien le dire, l'art est rongé par le même vice. L'œuvre ne se règle pas sur sa force créatrice, qui cherche à s'exprimer, à se matérialiser en elle. Elle ne veut plus se régler désormais que sur l'effet qu'elle désire produire sur le spectateur. Il y a là une inflation morale, et comme toutes les inflations, elle se solde par un effondrement des valeurs, et la profusion des talents ne prémunit pas la décadence italienne contre ce danger.
Ainsi qu'en témoigne cette archive de la chaîne nationale en 1952, le déclin pointe alors sur Venise. Coupée du reste du monde dans sa lagune, la ville s'aveugle, l'aristocratie au pouvoir s'illusionne dans une autoglorification absurde, célébrant la pseudo-perfection de son gouvernement, alors même que la ville ne vit plus que de sa splendeur passée. Les fastes des fêtes officielles ont beau persister, une crise économique se profile. On tente d'empêcher la fuite des artisans spécialisés, verriers ou tisserands, mais Venise perd de son attractivité. Toujours plus de jeunes nobles se désintéressent des activités commerciales qui avaient fait la grandeur de Venise et, à la place, se perdent dans la passion du jeu et se ruinent. En 1774, un décret du conseil de la ville interdit d'ailleurs les jeux de hasard et conduit à la fermeture du rideau tôt, malgré les protestations des clients. Pourtant, rien n'y fait et Venise continue de voir s'effondrer ses rentrées commerciales. Les théâtres ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts face à la surenchère des cachets et peut-être aussi à une forme de lassitude du public. Les hospedalies, ces hospices qui forment la crème musicale de la ville, n'échappent pas à cette spirale. En 1777, la faillite frappe l'un d'eux, les Incurabili, entraînant les trois autres dans sa chute. Le rideau s'apprête à retomber et le Popolani, le petit peuple de Venise, semble inconscient du drame à venir. Rien ne doit gâcher l'illusion et la fête, pas même la mort du doge que l'on tait pendant le carnaval de 1789 pour ne pas doucher les ardeurs et risquer de faire fuir le public. Isolé diplomatiquement, l'État vénitien n'a plus de soutien lorsque Bonaparte lance sa campagne d'Italie et déclare la guerre à Venise le 1er avril 1797. Le 12 mai, les troupes françaises sont au bord de la lagune, le doge abdique, Bonaparte entre alors dans Venise qu'il saccage. Symbole de la puissance passée de la ville, le Bucentaur, le vaisseau par lequel depuis 6 siècles le doge allait le jour de l'ascension célébrer les noces de la mer, ce Bucentaur est brûlé afin d'en récupérer l'or. Que c'est triste, Venise.
Come triste Venezia, soltanto un anno dopo. Com'è triste Venezia se non si ama più. Si cercano parole che nessuno dirà e si vorrebbe piangere, non si può più. Com'è triste Venezia se nella barca c'è soltanto un gondoliere che guarda verso te e non ti chiede niente, perché negli occhi tuoi e dentro la tua mente c'è soltanto lei.
Ainsi se referme ce numéro de Jukebox, aujourd'hui Venise 18e, un crépuscule en musique, à lire les écrits de Patrick Barbier, historien spécialiste, et notamment son Venise de Vivaldi, publié chez Grasset en 2002 et qui a largement nourri l'écriture de cette émission. L'exposition éblouissante Venise se poursuit quant à elle au Grand Palais à Paris jusqu'au 21 janvier prochain. Toutes ces informations, la réécoute, le téléchargement, la liste et les références des morceaux diffusés, ainsi que la possibilité d'exporter les playlists via Spotify, Deezer ou YouTube, c'est sur franceculture.fr à la page de Jukebox. Jukebox, c'était Pascaline Bonnet à la préparation, Antoine Vuillos de la discothèque de Radio France avec les services de l'INA. À la technique aujourd'hui, c'était Julien Douminc, Agnès Catou à la réalisation, au micro à Maurice Chardot. Bonne soirée et à samedi 19h pour un prochain Jukebox.
Addio gabbiano in volo. che un giorno salutaste, due punti neri al suolo, addio anche da lei. Troppo triste Venezia, soltanto un anno dopo. Troppo triste Venezia, se non stiamo.